Vous écoutez RTL.
Et maintenant, un invité surprise pour aborder un sujet très peu connu, et son mérite est grand de lui avoir consacré un livre, Les Galipettes dans l'Égypte ancienne.
Oh, bah dis donc.
Cela fait entrer Thierry des Espirito. Bonjour et merci d'avoir publié un livre qui s'intitule très explicitement, alors vous savez qu'on n'est pas porté sur les jeux de mots, mais là quand même, Pharao-Nick. Et ça dit bien
joli,
ce que ça veut dire.
Oui, c'est. Non, mais d'ailleurs, j'ai découvert en faisant ce livre que Niké, c'était un très vieux mot. Et qui a été justement inventé dans l'Égypte ancienne et qui s'écrivait à l'époque NK, Nick, et c'est devenu en arabe Nick, enfin je ne savais pas trop le prononcer, et ça a donné de nos jours Niké. Donc comme
pourquoi
quoi,
tu me regardes en disant ça
C'est un nom égyptien, un nom arabe.
C'est un nom d'origine un arabe.
Alors il faut croire que les égyptologues, et Dieu sait s'il y en a eu, étaient particulièrement pudiques, voire pudibonds. Puisqu'on en connaissait très peu sur la sexualité des pharaons, sauf qu'ils pratiquaient volontiers l'inceste. Hein.
Voilà, exactement. Alors, par exemple, on a un exemple très amusant, c'est que quand Champollion a étudié pour la première fois, parce que c'était le premier à lire dans le texte les hiéroglyphes, il a découvert notamment un papyrus à Turin, un papyrus pornographique. Et il a été horrifié par ce qu'il a découvert, il l'a mis sous le boisseau, et il a fallu très longtemps avant qu'il réapparaisse, et puis il est réapparu il y a quelques temps, gens l'avaient déjà vu, l'appelait papyrus érotique, il ne savait pas trop quoi en dire.
Alors
ce qu'on savait quand même,
c'est que souvent les pharaons se faisaient enterrer avec des objets érotiques. Hein.
Alors effectivement, on retrouve, mais c'était plus des objets, on va dire, votifs, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait des phallus en bois, mais qui étaient plus destinés, on va dire, à assurer leur fertilité dans l'au-delà, puisqu'ils étaient censés continuer leur vie dans l'au-delà.
On dit ça, et puis...
Inventeur du godemiché, alors.
Alors, curieusement, on n'a pas trouvé vraiment de godemiché en tant que tel. On a trouvé des tonnes et des tonnes de phallus, notamment dans les temples d'Hathor et dans
les premiers sextoys, quand même.
Exactement, mais ils n'étaient pas utilisés pour ça. Ils étaient plus donnés pour.
Ils ne servaient pas ça.
Ils ne servaient pas totalement.
Vous n'en savez rien, si ça se trouve.
Si ça se trouve, les prêtresses d'Hathor étaient
beaux. D'abord, il y a un premier point que nous connaissions. Et on n'a jamais bien compris pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité considéraient que le monde était né du plaisir solitaire d'un de leurs dieux.
Exactement, puisque justement ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent le sexe et la sexualité pour expliquer des concepts qui sont très compliqués à expliquer pour des gens qui découvrent le monde tel qu'il est. Et notamment le premier homme, Ré, et donc Atum aussi, parce qu'il a plusieurs noms, il s'est masturbé tout seul, parce qu'il était tout seul quand il est né.
Il a fallu qu'il se débrouille avec ce qu'il avait. Il faut bien se mettre à sa place.
Nous l'avons fait dans notre jeunesse, mais on restait seul. Hein. Ça ne s'arrangeait pas pour autant.
Non, absolument.
Alors ensuite, il y a une tradition de l'inceste. Il y a, le fait que Akhenaton et Néfertiti se cajolent en public.
Oui, ce sont ce qu'on pourrait appeler les premiers people de l'époque, de l'Antiquité, parce qu'à l'époque, il n'était pas du tout question que les souverains se mettent en scène. Ils étaient représentés de façon extrêmement codifiée. Tout ça était bien figé. Et puis Akhenaton, avec Néfertiti, se représente en public. On les voit s'embrasser, on les voit sur les genoux l'un de l'autre, on les voit s'embrasser sur un char, même un peu comme nous, on s'embrasserait en voiture.
Et donc, ils sont frères et sœurs, c'est ça, non
ils avaient une parenté, effectivement.
Oui. D'où ça vient cette tradition de l'inceste? Alors, le manque de partenaires ou le désir que ça sorte pas de la famille?
Je crois que c'est ça, l'esprit de famille. C'était ça l'idée. D'abord, ils avaient encore une fois l'exemple divin, puisque la plupart des dieux ont pratiqué ou sont nés de l'inceste. Et puis ensuite, il y avait cette idée de garder l'irradiation royale et de la conserver dans le... Alors, on remarque quand même, peut-être une petite précision, c'est l'inceste entre frères et sœurs, ce n'est pas l'inceste entre père et fille. C'est très 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 rare et pas du tout avéré. Même si on le voit ici ou là, c'est pas du tout avéré, quoi. Et c'est vraiment que des frères et sœurs, frères et demi-sœurs. Et d'ailleurs, ça apparaît, ça disparaît à certaines époques aussi.
Et Ramsès II, un chaud lapin. Hein.
Ah, un chaud lapin, il a eu, on lui prête à peu près une dizaine d'épouses et... Là, c'est avéré, parce que vous savez, il y a des gens qui se vendent de leurs exploits sexuels, et c'est pas toujours très vrai.
C'est pas le genre ici. Hein.
C'est pas le genre ici, à part un.
Oui. Oh. Ça va.
Voilà, et donc lui...
Le petit Ramsès à nous.
Ben lui, il se vantait, et en fait, Ramsus. Il en a fait plus que, qu'en réalité. Il a eu 120 enfants, quand même. Hein.
Oh là là,
ah, oui.
J'en suis loin. Il retrouvé. Enfin, les momies sont présentes, etc.
Mais et s'il en a eu un chaque coup, ça ne fait pas terrible, quand même.
Il n'y a pas eu des cas de zoophilie, parce que quand vous voyez les hiéroglyphes, vous avez souvent des corps humains à tête d'animaux, tête de crocodile.
Mais ce sont des dieux, ça. Ce sont les dieux, ça.
C'est les dieux qui pratiquent un peu des positions sexuelles, mais qui représentent, en fait, des humains. Parce que vous savez que, par exemple, la conception d'un fils royal, ça se faisait avec le dieu Amon qui prenait la place du mari dans la couche et qui faisait l'amour avec la reine. Ah oui. Et donc, c'était, c'était
Benoît
Marcel.
Amon. Moi, je faisais ça avec Marcel Amon. Ah oui.
Et dites donc, finalement, les hiéroglyphes porno, c'était l'ancêtre des revues pornographiques d'aujourd'hui, sauf qu'il fallait être musclé, parce qu'à 5 tonnes la revue, hein, pour les lire aux chiottes...
Alors, ça permet de dater... l'apparition de la fellation et du cunnilingus. Ce sont deux dates importantes. On en trouve peu de traces dans les manuels d'histoire.
Ça a dû être créé en l'an 69 avant Jésus-Christ.
Exactement.
Non, parce que là, sexuellement, la civilisation égyptienne est très avancée. Hein.
De ce point de vue-là, elle est très avancée. Alors, il faut quand même mettre, si je puis dire, un bémol, c'est que c'est réservé quand même à toute l'exposition des figures et des hiéroglyphes et des symboles sexuels, c'est réservé à la caste dirigeante. Les gens chez eux n'ont pas ce genre de symboles. Ah bon. Et les seuls le fameux papyrus porno qu'on a, c'est aussi un papyrus qui a été possédé par des gens assez riches.
Félicitons-nous que la démocratie soit passée par là. Et que ça soit maintenant à la portée de toutes les bourses. Eh bien, écoutez, merci et bravo pour avoir publié, je rappelle le livre, mais vous verrez tout de suite l'intention maligne. Ce livre s'intitule...
Pharaonique.
Et voilà, pharaonique.
J'avais bien retenu.
Alors, la personne qu'on voit sur la couverture...
Ah, c'est une prêtresse. D'ailleurs, elle est en train de, vous le voyez, elle est en train de respirer une fleur de lotus, et ça... C'est un peu comme offrir une rose. Hein. Ça veut dire que derrière, il va y avoir quelque chose qui a un rapport avec le sexe. Ah. À la fois par rapport à la représentation, puis à part à la senteur et au côté un peu narcoleptique du parfum.
Pharaonique, merci et bravo. Merci.